Je suis très heureux de vous retrouver sur La Nouvelle Génération. Bonjour, merci de nous choisir pour cette émission Club de la Presse. Nous sommes au vendredi 11 octobre 2024 et il sonne 11h. C'est l'émission Club de la Presse qui démarre. Nous sommes au cinquième numéro pour le compte à l'heure de cette semaine. Bienvenue au club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Kiki Sosa assure la mise en onde. Jérôme Dakouta est à la mise en ligne. Je suis Pascal Losso au micro. Salutations fraternelles à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Nero, Radio La Paix à Takpamé, Central FM à Sokodé, Sky FM à Badou, Radio Daoula Bassa, Sama FM à Niamtougou et puis Radio Koktoazi à Dapaouen. Là, vous comprenez que nous couvrons tout le Togo avec cette émission Club de la Presse. Merci à vous tous qui nous suivez aussi partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales, notamment notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook et également nos radios partenaires en ligne, Ibn Radio et Radio Les Bénins. Club de la Presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, l'analyse, le débat, bien sûr, sur l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et c'est avec nos confrères journalistes en studio avec moi. Confrères journalistes, Firmin Takou Agbo, bonjour.
Bonjour Pascal Lossou, merci de m'avoir invité.
J'espère que tu vas bien.
Ouais, nous allons bien par la grâce de Dieu.
Et les activités?
Ouais, ça va. Surtout aussi avec notre sensibilisation par rapport à la constitution de la Ve République. Je pense que peut-être vous l'auriez remarqué. Nous avons partagé avec les internautes l'article 2 de la constitution qui parle de la démocratie. Il y a un alinéa qui est très fort et qui dit ou qui dispose que le fonctionnement du Togo, c'est le gouvernement du peuple, pas le peuple pour le peuple. Ça montre clairement que la constitution de la Ve République se base fondamentalement sur la démocratie. Nous, ça nous enchante, parce que quand on parle de la démocratie, c'est la reddition des comptes, c'est la transparence, c'est la culture de résultat. Donc, quand on parle de démocratie, c'est la liberté d'expression. Notre objectif, comme nous le disons depuis un moment, c'est d'amener ou c'est d'encourager ceux qui dirigent à aller un peu plus vite en ce qui concerne la mise en place des institutions de la Ve République, parce que nous avons aujourd'hui 7 mois, moins de 8 mois déjà, pour mettre en place un certain nombre d'institutions. C'est beaucoup. Par exemple, au niveau de la justice, on doit mettre en place le Conseil d'État, la Cour de cassation. On doit mettre aussi en place le protecteur du citoyen. On doit mettre en place la nouvelle HAC, parce qu'on a ajouté le numérique. On doit mettre en place la présidence, la nouvelle présidence de la République, avec tout son personnel. On doit mettre en place la présidence du Conseil des ministres, avec tout son personnel. Il y a tout d'abord, il y a des problèmes de locaux. On doit chercher des locaux, des structures d'accueil. Il faut chercher aussi le personnel. Et l'autre chose qui est fondamentale, c'est le budget. Est-ce qu'on a déjà le budget? On a déjà de l'argent pour couvrir toutes ces dépenses-là. Donc, c'est tout ça là qui nous inquiète un peu. Notre objectif au niveau du sens, c'est d'accompagner l'État. C'est d'accompagner l'État à aller un peu plus vite. L'autre chose aussi qui est fondamentale, c'est que nous devons avoir le Sénat. Parce que c'est le Sénat et l'Assemblée nationale qui doivent se réunir en congrès pour élire le prochain président de la République. On n'a pas encore mis en place les conseillers régionaux. On a fait les élections régionales. Maintenant, il faut mettre en place les sénateurs et il faut mettre en place les conseillers régionaux pour avoir les sénateurs. Le Sénat, quel bâtiment va abriter le Sénat? Donc, il y a le gouvernement qu'on a mis en place. Maintenant, il y a le gouvernement qu'il faut mettre en place avec toutes les structures afférentes ou relatives et avec tous les agents, le personnel. On a tout ça. Est-ce qu'on a tout ça? Donc, c'est la question qu'on se pose. Et moi, nous on voudrait encourager l'État, puisque c'est l'État qui a adopté, c'est devenu la loi fondamentale de la République. Nous, notre objectif, c'est que tout se passe bien. Ceux qui gouvernent, nous leur souhaitons bonne chance, parce que s'ils échouent, c'est le Togo qui échoue. S'ils arrivent à bien nous satisfaire, à nous permettre de bien jouer les deux bouts, moi je pense que c'est le Togo qui gagne. Donc on ne peut jamais leur souhaiter que ça ne marche pas. Que ça marche, alors ils doivent savoir, le président de la République, c'est lui qui a promulgué cette constitution. Il faut qu'il sache qu'il y a du boulot, il y a du boulot. Alors nous l'encourageons et nous lui demandons d'aller un peu plus vite.
Il y a du boulot, tel que vous l'avez dit. Donc, l'essentiel est que qu'on aille aussi plus vite. Alors, il y a nous avons un ami aujourd'hui avec nous, c'est Monsieur Ayivi Alognon. Monsieur Alognon, bonjour.
Oui, bonjour Pascal, bonjour à tous les auditeurs.
J'espère que vous allez bien.
Oui, ça va. Et on tient le coup, mais vous savez que le pays, maintenant, c'est compliqué. Et chaque jour, c'est la survie. Mais on tient, et quand la nation nous appelle, Nous sommes obligés de répondre présent.
Tout à fait, c'est très important. Merci d'avoir répondu à notre invitation.
Vous êtes, n'avez pas,
vous êtes,
vous n'avez plus l'habitude de nous inviter, nous les activistes, sur les médias.
Non mais on vous a invité aujourd'hui, donc oui. Je pense quand même que c'est déjà un pas. Activiste politique, vous l'êtes, c'est bien ça.
Oui, c'est bien ça, parce que beaucoup nous considèrent comme nous sommes des gens qui mettent feu aux choses. En tout cas, nous essayons de dramatiser les événements. On est des gens qu'on ne doit pas donner tout le temps la parole. Sauf que nous, les activistes, nous contribuons beaucoup pour la stabilité de ce pays.
Monsieur Lognon, nous vous donnons la parole déjà à travers cette émission. C'est la parole que nous vous donnons. Donc, comprenez que nous sommes heureux même d'ailleurs de vous avoir dans ce studio. Nous allons parler de beaucoup de sujets tout de suite. Jamais Pourly nous a rejoint. Jamais, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous les confrères et invités. Bonjour à tous les auditeurs de Canal FM.
J'espère que vous allez bien.
Grâce à Dieu.
D'accord. Monsieur Kofi Annani, bonjour.
Bonjour Pascal et bonjour aux auditrices et auditeurs de Canal FM.
J'espère que vous allez bien aussi.
La grâce de Dieu toujours.
D'accord, vous êtes analyste politique. Et nous allons débattre aussi des sujets politiques tout de suite alors dans cette émission Club de la Presse. Mais bien avant de parler même d'ailleurs des autres des sujets, nous avons un invité, c'est Monsieur Ologem Ama. Monsieur Ologem, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à vos collègues et aussi invités ici présents et aussi de l'autre côté de la belle vitrine, la partie technique et auditeurs et auditrices de la radio Canal FM.
Vous êtes le secrétaire général du Haut Conseil des Maliens du Togo.
Adjoint.
Le secrétaire adjoint, bien sûr. Voilà, secrétaire adjoint. Alors, je vous ai invité pour qu'on parle un tout petit peu alors de ce Haut Conseil des Maliens au Togo. Alors, quand on parle alors des Maliens au Togo, cela se chiffre à quel taux, c'est-à-dire le nombre alors des Maliens au Togo.
D'accord, permettez-moi au moins de vous faire un aperçu du Haut Conseil d'abord, si c'est possible. Le Haut Conseil, c'est une association apolitique et à caractère non but lucratif qui est créée en 1991 lors de la conférence nationale et qui a été reconnue utilité publique en 2009. Maintenant ici, donc, on est présent dans plus de 77 pays à travers le monde, et dont le Haut Conseil des Maliens du Togo. Donc maintenant, au Togo, on est estimé dans le... On n'a pas un chiffre exact, mais on est estimé dans les 10 000 actuellement. On disait 8 000, mais actuellement, c'est dans les 10 000.
Environ 10 000
Oui.
Environ 10 000, c'est
environ.
Ça. D'accord. C'est beaucoup.
Énorme.
D'accord. Alors, oui, mais c'est vrai que quand on prend des Maliens à l'extérieur, ça veut dire tout simplement que c'est la diaspora qui contribue également à l'essor économique, surtout du Mali. Alors, concrètement, qu'est-ce que vous faites ici au Togo pour contribuer surtout au développement de votre pays de l'autre côté?
C'est comme tous les Maliens de l'extérieur, on est dans le commerce et on, tant bien que mal, on essaie au moins d'envoyer quelque chose au pays, apporter quelque chose au pays et aussi au pays d'accueil aussi. Et nous sommes dans presque tous les domaines aujourd'hui. Nous sommes dans le commerce, dans les BTB et aussi même peut-être dans les médias aussi.
Oui, dans les médias, vous êtes même d'ailleurs actuellement sur un média, donc ça veut dire tout simplement que vous êtes aussi dans les médias, bien sûr. Alors, oui, vous avez même un nouveau siège du Haut Conseil alors des Maliens au Togo, et ce siège a été inauguré même tout récemment. Et qu'est-ce qui serait la mission qui sera dévolue même d'ailleurs à ce cadre qui constitue votre siège?
Merci. Le siège, tout d'abord, permettez-moi de rendre un hommage à notre feu président Ibrahim Boubacar Keïta, qui, lors de son passage, nous avait gratifié une somme de 30 millions. C'était pour soutenir les actions sociales du Haut Conseil des Maliens du Togo, puisque le Haut Conseil, c'est la base. Nous sommes en étroite collaboration avec nos compatriotes avant l'ambassade, le consulat, c'est le Haut Conseil d'abord. C'est dans ça qu'il avait donné une somme de 30 millions. Et le bureau, aujourd'hui, dirigé par M. Youssouf Koulibaly, a jugé nécessaire de faire quelque chose de palpable. Oui, certes, le Haut Conseil dépense beaucoup dans l'année pour soutenir les compatriotes. On intervient dans les problèmes de police, dans les actions sociales. Mais l'argent qui a été donné, il faudrait donner une identité physique à la communauté malienne. Donc on a jugé nécessaire d'acheter un parcel et construire. C'est là que le nouveau siège du bureau du Haut Conseil des Maliens du Togo est né et qu'on a dénommé la Maison du Mali. C'est pour tous les Maliens. Maintenant, concrètement, qu'est-ce qui va passer dedans?
Justement.
Effectivement, c'est pour les Maliens. On a des rencontres, on a des officiels qui arrivent, toujours des rencontres. Et peut-être, il y a déjà le Haut Conseil, il n'y a pas un local identifiant pour dire que voilà notre siège. Actuellement, on a ça. Et s'il y a des mariages, des manifestations, au lieu d'aller louer des salles, déjà, on a un local. Parce que déjà, le siège compose le bureau pour les femmes, le bureau du président, du secrétariat, le bureau pour les sages, et aussi de la jeunesse. Et un grand local, un appadam qu'on a très bien aménagé pour les rencontres.
D'accord. Alors, concrètement, quelle sera votre action sur le terrain? C'est vrai que vous avez touché quelques-unes alors de vos actions tout de suite, des activités que vous menez. Vous avez parlé même d'ailleurs des actions sociales que vous menez sur le terrain. Alors, déjà, vous avez une maison du Mali au Togo. Et quelles seront les autres actions?
Les autres actions, ça serait de voir comment faciliter l'émancipation de la diaspora malienne ici au Togo, surtout avec un peuple très bien aimable, avec les autorités togolaises qui nous ont toujours facilité l'accès à tout ce que nous avons besoin. Je tiens à remercier vraiment les plus hautes autorités du Togo et surtout le peuple aimable qui accueille le monde entier au Togo. Donc, ça serait de comment orienter la population aussi. Chaque fois, c'est l'intervention quotidienne. C'est-à-dire que chaque fois qu'ils ont des problèmes, il y a d'autres peut-être qui ont des problèmes de logement, il y a d'autres qui ont des problèmes de santé. Donc nous intervenons quotidiennement dans ça. Au-delà de ça aussi, le bureau a initié d'autres choses. C'est quoi? C'est de donner un toit aux Maliens de la diaspora, surtout du Togo. C'est dans ces cadres que le bureau avait négocié jusqu'à 337 parcelles à Bamako. Et qu'on avait une première partie très bien réussie dans la commune de Muntugula, qui a été vendue aux Maliens du Togo, qui ont très bien apprécié. Et on est en train de faire aussi négocier d'autres possibles pour que au moins qu'on puisse aider la diaspora malienne. Les gens sont là, beaucoup n'ont pas le moyen d'acheter un terrain subitement avec peut-être 1 million, 2 millions, 3 millions. Mais avec le Haut Conseil, ils ont la possibilité d'acheter par tranche. Ils versent une somme et après, petit à petit, on peut jusqu'à ce que terminé. C'est comme ça et on est dans ça aussi.
L'autre question que je voudrais vous poser, c'est comment vous appréciez les actions, surtout du moins la situation politique alors de votre pays actuel avec le président Assimi Goïta?
Très bien, merci beaucoup. Peut-être si vous n'avez pas posé cette question, j'aurais douté aussi. Peut-être vous n'êtes pas africain. Donc, très bien, on apprécie. Actuellement, le Mali, le Niger et le Burkina Faso, on est presque devenu un seul pays par les circonstances.
Ils ont créé même d'ailleurs l'Alliance.
On a le même problème. On a presque, c'est la même zone. Et donc, avec le président Assimi, c'est très bien, nous sommes en train d'évoluer petit à petit. Certes, c'est difficile, mais déjà, il y avait une nouvelle constitution qui a été votée. Et encore, nous sommes en phase, surtout, d'appréhender d'autres, de gagner la guerre du terrorisme, qui est une guerre asymétrique qui, aujourd'hui, pompe le nerf à tous les pays du Sahel, surtout même les pays côtiers. Je me souviens très bien lors de la deuxième conférence de soutien à la transition au Mali, ici, c'était ici, à l'hôtel des Ferrouilles, où le président du Togo, son excellence, avait déplacé, s'était déplacé physiquement pour tenir la réunion. Et ces jours-là, il avait très bien dit que le problème du Mali, c'est pas le Mali seulement, c'est toute la région. Et aujourd'hui, ces prostitutions qui sont avérées vraies. Et nous, tout ce que nous souhaitons, c'est pour que les pays puissent se donner la main et aussi indiquer à ces problèmes.
D'accord. Si vous avez un mot à l'endroit de cette diaspora du Mali au Togo, qu'est-ce que vous allez leur dire?
C'est pour dire, c'est de respecter les lois, les codes et les règles des pays d'accueil. C'est un conseil très important. Et aussi entre nous, c'est donner la main pour la cohésion de toute la cause malienne ici, surtout avec d'être avec de bons conseils avec nos autres, surtout le peuple togolais, comme on dit, nos Djatiki.
Monsieur Ologem Rama, c'est ça le nom. Et merci d'être passé alors dans cette émission.
Merci beaucoup. Et merci aux auditeurs et aux auditrices de la Radio Canal FM. Et merci au plateau ici, que les collègues, les invités et la partie technique.
D'accord. Merci beaucoup, monsieur Rama, d'être passé alors dans cette émission. Chers confrères, nous revenons en studio pour parler de nos sujets. Nous démarrons ce sujet où on ne peut ne pas démarrer, même d'ailleurs, cette émission sans parler du football. Vous savez que nous étions sur le stade, enfin, je veux bien parler alors des Éperviers du Togo. Les Éperviers du Togo étaient hier sur le terrain à Dakar, en Algérie, pour le troisième journée de la CAN Maroc. Et c'est bien sûr, vous connaissez même d'ailleurs le score, c'est 5-1, c'est ce score. Et il y a le journal Canal Indépendant qui est revenu sur le sujet ce matin, qui écrit: éliminatoire à CAN 2025, l'Algérie déroule face à un Togo en manque de repères, 5-1. Alors, Gervais Pouli, je ne sais pas si vous avez vu le match hier, mais quelle appréciation vous faites alors de cette prestation de l'équipe nationale?
Je n'ai pas vu le match, je l'ai suivi par intermittence, grâce aux nouvelles technologies justement. Et on a été agréablement surpris, dans un premier temps, on a cru en un miracle qu'on était en train d'opérer, mais la tendance est totalement renversée à la deuxième mi-temps, et donc avec finalement un score assez low pour une équipe qui commençait par nous donner espoir après ce qu'ils ont fait en Guinée équatoriale. On se disait les Éperviers prennent peut-être leur envol et pourront nous qualifier à un autre mondial après celui de 2006, mais c'est à croire que les Algériens étaient plus forts que nous. C'est vrai que sur le plan...
Quand on prend le positionnement, classement de l'Algérie par rapport à nous, il y a un fossé.
Mais on avait espéré faire quelque chose, surtout que les Togolais avaient ouvert le score, mais 5-1, c'est assez lourd et ça abat un peu le moral. Maintenant, c'est vrai que c'est l'Algérie. Ça reste une grande équipe. On espère que on va limiter les dégâts ici. Et pourquoi pas faire un nul ou avoir une victoire. Donc, c'est peut-être notre espoir. Mais après, on est un peu déçus parce qu'il y avait une ferveur qui commençait à remonter autour des Éperviers. Un peu estompé avec le match nul ici, mais la ferveur a pris beaucoup plus de volume avec ce qui s'est passé en Guinée équatoriale. Et hier, faut dire que on était assez abattu. 5-1, c'est lourd, mais c'est le foot. Et ça prouve un peu aussi l'état actuel de notre équipe. Espérons que la nouvelle équipe dirigeante, alors je vais parler du coach et de tout le staff, donc je ne parle pas de la fédération, pourront faire quelque chose, surtout qu'ils ont eu à être de grands joueurs pour la plupart. Espérons vraiment qu'ils puissent transmettre cette motivation-là et cette envie de défendre les couleurs qui manque un peu. Je manque un peu, et c'est vrai qu'on a assez de jeunes joueurs qui peut-être n'ont pas trop l'habitude de ce genre de compétition, mais on ne sent pas une réelle motivation comme ça a été le cas en 2006, avec des acteurs aujourd'hui qui sont dans le staff. Qui
alors, quand vous parlez de motivation, c'est au niveau des joueurs ou bien c'est plutôt au niveau de la fédération ou je sais pas trop?
Non, c'est pas la fédération. Bon, c'est avant tout les joueurs. Après, l'entraîneur et son staff. La fédération vit après, quand les conditions d'organisation sont chaotiques, on peut peut-être s'en prendre à la fédération. Mais il nous faut déjà de bons joueurs qui aient envie d'apporter du bonheur donc aux Togolais. Et on ne le sent pas beaucoup. Certains vont même dire qu'on n'a pas une bonne équipe comme les précédentes. Mais je crois qu'une équipe aussi, ça se forme. Surtout que les encadreurs ont été des acteurs majeurs d'un football qui a fait rêver les Togolais, qui a procuré beaucoup de joueurs togolais. On attendait quand même qu'ils arrivent à motiver les plus jeunes, mais malheureusement, ils ne tiennent pas encore le bon
d'accord.
coup. Espérons que ça s'améliore.
Espérons que ça s'améliore.
Sur les prochaines rencontres.
D'accord. Firmin, c'est vrai que quand on suivait le match hier jusqu'à la fin, et déjà quand on a un score de 5-1, on se posait la question de savoir, mais qu'est-ce qui n'a pas marché?
Non, il ne fallait même pas poser cette question parce qu'on n'a pas encore une équipe comme celle de 2013. Mais vous savez, quand moi j'ai suivi, j'étais au stade de Kégué, quand j'ai suivi le match au stade de Kégué, bon, il y a eu beaucoup d'hésitations. C'est une équipe, bien sûr, Daré, oui, c'est un professionnel. Daré, il a joué en tant que grand joueur. Mais il lui revient maintenant de construire une équipe. Il est en train de poser les bases. Alors, il ne faut pas qu'on rêve trop. Notre rêve, c'est de nous qualifier pour la Coupe du Monde prochaine, pour la CAN Coupe du Monde prochaine, mais est-ce qu'on a déjà les éléments? Vous savez, il faut se référer un peu à ce que Kéchi avait fait. Kéchi est venu trouver une équipe un peu compliquée. Mais il a essayé, petit à petit, à construire l'équipe. Et il a construit l'équipe. Avant, c'était difficile pour nous de nous donner des passes. Maintenant, avec lui, on a commencé par se donner, pas construire un jeu, pas construire de petits beaux jeux. Et c'est ça qui nous a permis de nous qualifier pour la Coupe du Monde 2006. Mais ici, c'est la même chose avec Daré. Donc, ce qu'on a vu, je suis au stade de Kégué. Si on était vraiment en bonne forme, on aurait vraiment gagné. Et ce qu'on a vu en Guinée équatoriale, on a de petits trucs, mais c'est parce que l'équipe n'est pas encore solide. C'est ça qui a fait que pour la Guinée équatoriale aussi, on a fait 2-2. Ce qu'on a vu, ce qui s'est passé hier, ça ne devrait pas nous surprendre parce qu'on n'a pas, face à l'Algérie, il faut une équipe un peu solide pour pouvoir tenir. Mais je ne me décourage pas parce que vous savez, quand vous voyez un peu le palmarès du Togo, moi je me rappelle quand encore trop petit, le Togo avait gagné l'Italie. L'Égypte ici. L'Égypte, c'était au temps de Kader Koubadia et de Salou Tadjou. Donc, on peut avoir des ressources si on le veut. Mais l'essentiel de se mettre au travail et d'oublier ce qui s'est passé. Peut-être ici, qui vous dit que peut-être on ne fera pas 1-0 ici en faveur du Togo. On peut se relever. C'est une question de détermination, c'est une question de volonté, c'est une question d'engagement, c'est une question de vision. Où est-ce que nous sommes en train d'aller? Si l'entraîneur peut se montrer tout le temps optimiste, si le staff technique, si le gouvernement peut se montrer très optimiste, je pense qu'on ira loin. Mais il ne faut pas se décourager, il ne faut pas insulter les gens, il ne faut pas dire que non, il ne faut pas ressortir les vieux démons, mais il faut savoir que on peut gagner, on peut battre, on peut se qualifier encore. Et encore de l'espoir, on peut se qualifier.
Daré le disait hier, que tout n'est pas noir, et donc ce qui veut dire qu'on peut se qualifier, on peut encore se relever, comme tu l'as dit.
La chose la plus difficile à faire en matière de football, c'est de marquer. Mais si on arrive quand même à marquer, ça veut dire qu'on peut faire quelque chose. Par exemple, on a déjà 4 buts. On est arrivé à marquer 4 buts. Ça veut dire qu'il faut travailler peut-être le milieu. L'attaque, ça peut être encore plus prolifique. Il faut travailler le milieu, il faut travailler la défense et il faut se mettre vraiment à faire des exercices physiques pour se mettre toujours en forme et pour pouvoir tenir pendant les plus de 90 minutes.
Monsieur Alonion, est-ce que vous avez été surpris hier en voyant ce score de 5-1?
Bon, surpris, non. Oui et non. Bon, oui, parce que, comme vos confrères viennent de le dire, l'équipe togolaise, les épreuves du Togo, je crois que c'est une équipe qui a à refaire de tous les côtés. Et d'abord, je voudrais remercier Nibombé Daré pour avoir accepté diriger les épreuves du Togo. Il est venu.
Accepté diriger, mais on veut maintenant les résultats.
Oui, on veut des résultats, mais on ne va pas quand même le juger sur les toutes premières prestations de l'équipe parce qu'il est juste arrivé. Il lui faut du temps, du petit temps, pour quand même restructurer les choses. Parce qu'il est arrivé avec tous les problèmes que contient notre. En tout cas, que contient le football togolais, c'est assez énorme. Il y a la problème de la fédération qui est là, les grands acteurs, ceux-là qui ont eu à jouer pour l'équipe nationale aussi, ils envoient leurs mots. Je crois que tout ça mis dans la balance va compliquer le travail à Nimombe Dare, mais il va falloir lui donner du temps pour pouvoir voir ce qu'il pourra faire pour quand même mettre l'équipe togolaise sur de bons rails. Sinon, ce n'est pas une équipe que nous avons face à tout ce que nous avions vu hier sur notre pelouse. C'est quand même regrettable. En premier lieu, les Épervier se sont montrés quand même, en tout cas, contraignants face à cette équipe de l'Algérie en s'offrant ce but à la 11e minute. Mais après, l'égalisation en est arrivée, la seconde mi-temps, c'était du cafouillage total. Nos siens n'arrivent plus même à s'offrir trois passes simultanées. Et puis les Algériens qui ont joué sur leur qualité intrinsèque physique sont arrivés et quand même à nous humilier sur ce score lourd. Après 24 ans, le Togo enregistre encore une seconde défaite cuisante avec ce score de 5-1. Je crois que ça remet même notre la compétitivité de l'équipe togolaise sur l'échiquier international. Mais on doit encore espérer et il faut nourrir d'espoir pour pouvoir, parce que avec même ce score, le Togo demeure toujours deuxième de la poule, maintenant en attendant les autres matchs.
Puisqu'il faut le rappeler que déjà le lundi prochain, c'est-à-dire le 14, oui, le Togo accueille alors l'Algérie ici à Lomé, au stade alors de Kégué.
Voilà, c'est ce que je voudrais dire. Maintenant, il faut s'apesantir sur le match retour pour pouvoir corriger ce qui n'a pas marché et ce qui a corrigé, et puis revoir ce qui n'a pas marché pour quand même répliquer cette provocation que nous a donné cette équipe algérienne. D'accord. Mais il faut dire que l'équipe algérienne n'en doute pas. C'est une équipe qui est bien...
C'est une grande équipe.
C'est une grande équipe, vu leurs prestations, différentes compétitions internationales. Maintenant, est-ce que nous devons quand même aller maintenant limiter les dégâts ou bien aller reconquérir le titre? C'est la question qui se pose.
D'accord, c'est la question qui se pose. Monsieur Kofi, c'est vrai que tout au début de cette semaine, on a vu même d'ailleurs des prêtres, ou du moins on a écouté, on a lu sur des médias sociaux également, et même qui nous ont dit, je suivais même un reportage également sur Radio Lomé concernant cela, où il y a des prêtres vaudous qui ont, de Michel Tové, qui ont eu à faire également des cérémonies pour que, du moins, l'équipe, enfin que s'il y a un sort à l'encontre alors de l'équipe nationale, que ça soit neutralisé, mais finalement on se dirait que ça n'a pas marché.
Pascal, est-ce qu'il faut se fier à ce que disent ceux qui sont professionnels du spirituel par rapport aux questions nationales? Je ne sais pas. Moi, je n'ai pas eu la chance de suivre la fessée footballistique qu'a reçue notre équipe nationale hier, mais j'ai eu à faire des analyses à mon niveau. Étant encore tout petit, étant adolescent, je crois que le Togo a rencontré ces équipes-là des pays de l'Afrique du Nord à plusieurs reprises. Et mis à part l'année 2013 où le Togo a battu l'Algérie 2-0, je pense que nous avons toujours souffert face à ces pays-là. Et le problème, c'est que avec ces pays, ce n'est pas seulement dans le cas du Togo, mais dans le cas d'autres pays d'Afrique, lorsque vous êtes en train de jouer avec eux et que vous marquez en premier, il vous faut un maximum de concentration. Parce que, à leur niveau, c'est déjà comme si vous les avez blessés. Et c'est là qu'ils déroulent véritablement ce qu'ils savent faire, après avoir encaissé un but. Moi, je me dis ceci, qu'il est important que le coach, le nouvel entraîneur, c'est encore trop tôt pour lui, pour nous aussi, de pouvoir l'accuser de quoi que ce soit. Mais il est important qu'il fasse un diagnostic réel plutôt de ce qui s'est passé hier en Algérie, pour pouvoir maintenant savoir comment gérer le match retour le lundi prochain. Et comme le dit un proverbe à Cannes, la branche de l'arbre est pliée, mais ce n'est pas encore cassé. Nous avons encore les moyens de revoir nos copies et de mieux faire.
D'accord. Voilà. Mais nous avons encore les moyens de revoir nos copiers de bienfaits tels que M. Kofi l'a dit. Mais aujourd'hui, quelles sont les actions concrètes à mener? Parce que oui, ça a été cuissant hein, déjà hier, cette défaite, 5-1, mais finalement, on se dit, mais qu'est-ce que nous devons faire maintenant pour nous relever?
Bon, je crois quand même au cours de la première partie de ce jeu, le Togo a fait quelque chose d'extraordinaire, c'est d'ouvrir le score. Ça, franchement, je m'attendais pas à ça. Et on a vu aussi la dernière fois le Togo en Guinée équatoriale aussi faire des choses auxquelles on s'attendait pas. Et ça me rappelle aussi dans la phase éliminatoire 2005-2006 pour la CAN et le Mondial, comment le Togo avait réussi à éliminer de grandes équipes. Y compris même la grande équipe sénégalaise à l'époque. Et quand tu vas à Dakar aujourd'hui, quand tu te dis que tu es togolais, ben, ils n'ont en tête que ce match et le but que Adebayor Chehi a inscrit. Et donc, je crois que ça, c'est la marque des éperviers. Et ils l'ont prouvé il y a quelques semaines en Guinée équatoriale qui peuvent surprendre parce que personne ne s'attendait à ce score-là, et ils ont fait des merveilles. Donc, espérons que le même mental les anime pour le match retour et qu'ils puissent. Et maintenant, quand on voit le classement, je crois quand même qu'on n'est pas encore les derniers de ce groupe. On a toutes nos chances, même si l'Algérie aujourd'hui est pratiquement certaine de passer. Et le Togo peut toujours. Et donc, c'est tout ça. Nous le saurons lors du match prochain. J'ai lu une interview du coach Daré, donc accordée après ce match. Et je crois que lui aussi fait vite d'oublier cet épisode-là qui pouvait traumatiser, mais il pense que ses poulains ont pu quand même ont quelque chose à faire valoir qu'au retour, c'est vrai qu'il ne fait pas cette promesse, mais il se dit que ce match où un Algérien est derrière, non, il faut penser donc à ce qui va arriver. Je crois que c'est ce à quoi les joueurs aussi doivent s'atteler. Maintenant, est-ce qu'on sera plus fort sur nos installations? Non, je ne pense pas. Mais tout dépendra. Je crois que si ces Togolais se disent, ils font ce qu'on a vu en Guinée équatoriale, c'est possible qu'on fasse un nul ou qu'on gagne. Et tu le disais tout à l'heure, alors, il y a eu des canons, le Togo a eu quand même à battre l'Algérie de façon assez miraculeuse pour filer. Parfois en quart de finale, on a vu comment ce match-là avait été apprécié, mais l'Algérie reste une équipe beaucoup plus forte hein, que la nôtre, mais n'empêche que on peut s'en sortir au pire des cas, peut-être espérer sortir avec l'Algérie donc pour l'étape suivante. C'est vrai que c'est décourageant ce qui s'est passé hier, et on voit mal comment on peut se rattraper sur nos installations, mais tout est encore possible.
D'accord, tout est encore possible. Alors, oui, mais je reste avec vous. C'est vrai que l'équipe togolaise n'a pas brillé hier en Algérie, mais tout récemment, le Togo a brillé à Paris, et c'est grâce à notre compatriote Kossi Grace-Doublin, et qui est sacré, en quelque sorte, maître de l'éloquence francophone, parce que c'était un concours, bien sûr. Avec ce concours, ils étaient 10 finalistes, mais le Togo a été sacré meilleur à travers notre compatriote.
Oui, ben ça fait vraiment plaisir hein, de voir le Togo trôner sur la francophonie, sur un concours d'éloquence, c'est dire que les Togolais qu'on considère par moments comme des gens un peu timides, qui n'ont pas la tchatche, comparé à d'autres comme les Ivoiriens, les Camerounais et tout cela, dont on se rend compte que sur des compétitions comme ça, le Togo arrive à tirer son épingle du jeu, et on ne peut que saluer cela. On a vu que c'est des concours qui s'organisent régulièrement ici, et sur le plan national, on a vu les joutes verbales qui ont été quand même une grande compétition, et j'ai personnellement assisté à quelques-unes avec des étudiants qui étaient formidables, qui était vraiment formidable quand on voit ces jeunes-là s'exprimer sur des thèmes. Et ici, le thème était justement la francophonie. Le Togolais a su séduire ces jurys-là en apportant une autre vision de la francophonie qui a besoin de se réinventer avec toutes les difficultés.
Et il s'est mis même d'ailleurs dans la peau du secrétaire général de la francophonie.
Voilà. Et donc, je crois qu'il a... Il s'est bien préparé, il le dit d'ailleurs, il s'est bien préparé, et ce couronnement-là le satisfait, mais pas que lui seul, ça satisfait énormément le Togo. Et nous, aujourd'hui, on l'a mis dans notre journal à la une, parce que c'est des valeurs comme ça qui motivent le Togo, un Togo qui peut être champion. On a vu Togo champion du monde en 2006 avec la Miss Coupe du Monde. À l'époque, on a semblé banaliser la chose, mais c'était quelque chose qu'on aurait dû capitaliser parce que c'était la plus belle femme du monde, hein, sa Miss Coupe du Monde. Aujourd'hui, au niveau de la francophonie, on en a eu hein, jusqu'à la seule médaille olympique qu'on a au canoë-kayak à l'époque. Donc, je crois que c'est...
Même pour la francophonie en question, c'est encore une deuxième fois même d'ailleurs hein, que le Togo est sacré.
Il y a eu aussi un concours dont on ne parle pas assez, qui a eu lieu il y a plus d'une vingtaine d'années. C'était la célèbre dictée de Bernard Pivot. Et il y avait un Togolais, paix à son âme. Il était directeur de la communication à la présidente de la République, Cléo Béthézy, qui était le seul Africain à avoir fait un sans faute à cette dictée-là de Bernard Pivot à l'époque. Malheureusement, on n'avait pas non plus médiatisé tout cela. C'était le seul Africain. Et il a battu des Français sur cette dictée-là, la célèbre dictée de Bernard Pivot à l'époque. Et donc, je crois qu'on a beaucoup de valeur. Et aujourd'hui, il faut valoriser un peu tout cela pour que ceux qui doutent encore d'eux-mêmes, en tant que Togolais, dans plusieurs secteurs, sachent qu'on a quand même le potentiel.
Okay. D'accord. Firmin, c'est une fierté nationale quand on voit qu'il y a un compatriote qui est allé décrocher, même d'ailleurs, le meilleur prix de l'éloquence à l'étranger.
L'éloquence, dans quelle langue?
En français, bien sûr.
Moi, ce n'est pas une fierté nationale pour moi. Moi, ça ne me dit absolument rien. Quelqu'un qui va parler français, puis vous applaudissez des deux mains.
Non, mais il n'était pas seul.
Non, écoutez, moi je suis très déçu quand j'ai lu ça sur les réseaux sociaux. Moi je n'ai pas applaudi quelqu'un parce qu'il parle bien français.
Mais parlons du contenu quand
non.
même.
Non, moi je ne suis pas d'accord. Qu'on applaudisse quelqu'un parce qu'il a bien parlé la langue du colon. Non, moi je ne suis pas d'accord. Je suis sérieux. Moi ça me paraît bizarre que les gens applaudissent ça des deux mains. Puis non. Comment le blanc va nous trouver?
Filma, tout le monde, tu parles français.
Non, je parle français, justement. Tu parles français. Je parle français. Oui, je suis d'accord, je parle français.
Mais tu es en contradiction avec toi-même.
Non, aujourd'hui même, parce que nous sommes obligés.
Est-ce que c'est pas parce que lui aussi, il est obligé?
Il est obligé? Oui,
mais c'est parce que c'est un concours en français. C'est la francophonie.
Oui, c'est un concours en français. Un concours en français. Écoutez, qui brille? C'est la France qui brille. C'est la langue française qui brille.
Voilà, c'est le Togo qui brille.
Non, mais le Togo, justement, c'est un Togolais.
Non, c'est la France qui brille. C'est nous qui promouvons la culture française. Ça, c'est une manière de promouvoir la langue française et non la langue du Togo.
Ouais, mais...
Moi, je ne suis pas d'accord. Vous imaginez, c'est bien, on parle du Togo. Oui, c'est bon. Mais arrêtez, en quoi est-ce que cela représente une fierté pour nous? Quand on organise ça en France, quand vous venez vous parler bien la langue française... À quoi ça fait véhiculer? Vous savez ce que les Français disent? Suivez tous les discours des dirigeants français. Il faut qu'on fasse tout pour que la langue française puisse rayonner, pour que la France rayonne de par le monde. Écoutez, c'est la France qui brille, non le Togo. C'est la France qui brille. C'est-à-dire, si on avait fait ça, par exemple, en langue togolaise, et on a dit, oui, la langue togolaise a pris du dessus, après le dessus sur les autres langues, moi, je serais vraiment fier. En quoi est-ce que le Togo a brillé? C'est la langue française qui a brillé. C'est la France qui a brillé. C'est ce que les Français veulent.
D'accord.
Donc, moi, en tout cas, moi, je ne suis pas d'accord.
Oui, monsieur Kofi. Alors, et quand on écoute Firmin, il parle en panafricain. Et là, on voit tout simplement que, en tant que Togolais, en tant qu'Africain, il faut plutôt valoriser alors ce qui est de chez nous, c'est ça?
Pour une fois, je suis en partie d'accord et non d'accord avec Firmin. Quand il dit, par exemple, que si c'était... une question d'une langue locale, il allait en être fier. Comment voudrait-il que les Africains se réunissent et qu'ils parlent leur langue locale respective et qu'on applaudisse quelqu'un parce que sa langue est la meilleure. Parce que les autres qui nous entendent ne comprennent pas vraiment ce qu'on est en train de dire. Écoutez, dans tous les domaines de la vie, ou dans tous les domaines d'activité, où des compatriotes, que ce soit ici, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, font briller les couleurs nationales, je pense que nous devons en être fiers et les célébrer. Et moi, je vais jeter des fleurs à notre compatriote, pour ce qu'il vient de faire. Il n'est pas le premier. Je pense que c'est la deuxième fois, vous venez de le dire vous-même. Et je vais lancer un appel au gouvernement de commencer par faire des efforts pour ne serait-ce que célébrer ces genres de personnes pour permettre à d'autres qui sont dans d'autres régions, qui ont des talents à faire valoir, d'avoir ce courage-là de sortir pour porter haut les couleurs de notre pays.
D'accord. Monsieur Alognon, finalement, c'est notre compatriote a été sacré, hein, meilleur prix en éloquence au niveau de la francophonie. Alors, c'est à saluer.
Oui, c'est à saluer. Moi, je suis content de ce prix. Vous savez, ce que Firmin dit, moi, je le comprends. Je le comprends. Mais il faut dire qu'il n'était pas le seul. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont fréquenté, qui ont assez de diplômes, mais ne sont pas éloquents. Ils n'arrivent même pas à aligner 5 phrases, c'est-à-dire 5 mots pour former une phrase. Si on a une compatriote qui fait briller le nom du Togo, même quelle que soit la petite chose que tu feras à l'extérieur et qui pourra faire remarquer ton pays, je crois qu'il faut en être fier. Il faut en être fier. Maintenant, on peut poser le débat sur d'autres formes, comme Firmin le dit, que parler la langue française, c'est de promouvoir la culture française, c'est ce que les Français veulent. Oui, c'est ce que les Français veulent. Mais nous aussi, nous pouvons organiser, par exemple, d'autres concours auxquels les Français peuvent participer en parlant notre langue. Si nous arrivons quand même et à promouvoir notre culture aujourd'hui.
Là, il y a un travail d'influence qui doit être fait d'abord.
Voilà, il y a un travail d'influence qui doit être fait. Imposer notre langue sur l'échiquier international avant de commencer par poser la question de savoir s'il faut organiser un concours. En ce terme, maintenant, la France, on connaît tous ce pays. C'est un pays qui est développé dans beaucoup de domaines. Maintenant, arriver à organiser un concours de langue française qu'un compatriote a découvert. Je crois que les Français aussi ont participé, ou bien c'est...
Non, mais c'est la francophonie, c'est-à-dire les pays africains qui parlent le français, qui en partagent le français.
Ce qu'on perd de vue, c'est pas que la langue française, c'est le talent, c'est l'éloquence, c'est pas le français. C'est déjà dans la tête et la façon de le rendre, c'est un talent. C'est comme
Il y a même le contenu aussi. Le contenu,
oui,
la cohérence, la logique,
voilà, donc dans les idées. C'est une force intellectuelle qui est valorisée. C'est pas mimer le français, c'est une construction logique, c'est des choses, c'est une préparation, c'est du talent qui a été fait. Maintenant, ça, il faut saluer cela. Mais après, le français, quand moi je vois les Africains francophones se plaindre du français, m'étonne parce que nous, ici, on serait incapables de faire ce débat dans aucune de nos langues, parce que nous ne parlons pas tous la même langue. Et le français, c'est une langue qui fédère plusieurs choses. Ça a des avantages, ça a des inconvénients. Maintenant, la France politique, on peut la critiquer, on peut tout faire, mais la France culturelle, c'est une France dont nous tous on profite. Aujourd'hui, les gens parlent, mais ils veulent aller faire les études en France. Ils sont pleins à vouloir partir étudier. Vous allez à l'Institut français, tout ça, les gars. Donc, ce n'est pas la peine de faire ce débat. Ce n'est pas une question de langue. Maintenant, qu'est-ce que nous, on a à vendre? Moi, quand je suis sur TikTok, certaines vidéos, où je vois des Français, même des Chinois parfois, danser sur les rythmes ivoiriens, congolais, tout ça, mais nous aussi, on est en train de les coloniser culturellement. Et donc, le monde, c'est le partage. Ben, ils nous ont appris le français. Mais sans le français, moi, je ne pourrais pas faire mon journal. Je pourrais même... Il y a des mots qui n'existent même pas dans ma langue pour dire certaines choses. Ou même quand ils existent, ce n'est pas tout le monde qui va comprendre le sens. Donc, c'est culturellement, le français, c'est une bonne chose. Aujourd'hui, on a l'anglais dont on ne profite même pas. nous sommes membres du Commonwealth, mais combien de Togolais parlent l'anglais? Les gens ne s'efforcent même pas pour apprendre l'anglais et profiter de cet espace-là. Donc, là, les langues sont une force. Et même quand vous êtes au niveau local, vous arrivez à parler les langues de plusieurs régions, mais vous êtes plus riche que les autres. Vous allez voir quelqu'un aujourd'hui, il va à Karaï, parle Kavia, il va à Sokodé, il parle Kotokoli. Ce type est plus riche que celui qui est dans son coin et ne comprend que sa langue. Donc, je crois que la langue, il faut pas, je vois pas ça sous tout aspect. La France politique et tout ce qu'elle fait en Afrique, un peu, la France économique, les entreprises qui pillent avec la complicité des politiques, tout ça, on peut ça contester, mais après, nous aussi, on est responsable de toutes ces situations-là. Et quand un de nos compatriotes qui a veillé pendant des nuits, qui a préparé son show, parce qu'il s'agit bien de cela, c'est un spectacle, et qui va,
qui
va ramener un prix, moi, je crois pas qu'on mette ça, qu'on banalise ça en disant que non, ça fait de l'affaire des Français, tout ça. Ce talent, il va l'exploiter ailleurs. Il va l'exploiter ailleurs. Et ça lui a apporté quelque chose d'inimaginable. Il sait qu'il est capable de parler, de séduire, il est capable d'influencer. Et ça, dans toute sa vie, vous allez voir, peut-être si vous le suivez dans quelques années, vous allez voir l'influence de ce prix-là sur sa vie. Parce que il est beaucoup plus à l'aise, il prend beaucoup plus confiance en lui, il est plus valorisé, il va aller beaucoup plus loin.
D'accord. Oui, Fimé.
Oui, mais moi, j'ai l'impression qu'on ne me comprend pas, en fait. J'ai l'impression qu'on ne me comprend pas. Nous sommes contraints de parler français. Mais nous sommes dans un monde d'influence. La politique diplomatique française, c'est quoi? C'est d'influencer et de s'étendre. Aujourd'hui, moi, on peut dire, les Français applaudissent le Togolais parce qu'il a bien parlé leur langue. Et on peut lui décerner un prix parce qu'il a bien fait le job. Mais nous, Togolais, nous allons applaudir quelqu'un parce qu'il a bien parlé la langue d'autrui. La langue, une langue étrangère. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est ce que moi, j'essaie de dire. C'est-à-dire, ceux-là qui ont organisé ce prix-là, ils ont un objectif. S'étendre davantage, rendre beaucoup, leur culture beaucoup plus viable et visible. Et si nous aussi, on suit cela, ben je pense que ben, c'est comme on rentre dans leur jeu et on fait du mal à nous-mêmes, à nous-mêmes. Donc moi, je peux dire, on peut peut-être applaudir quelqu'un pour, dans d'autres domaines, pour des prestations à l'extérieur, mais arriver à applaudir un compatriote parce qu'il a bien parler la langue de tout, c'est ce que les Français.
Mais veulent. Il n'y a pas que parler, c'est de ça qu'il s'agit.
Pascal, l'éloquence dans quelle langue?
Pascal, vous finissez
rapidement. La langue n'a été pas véhiculée.
Pascal, vous finissez rapidement. Moi, je parle français. Je ne fais même pas ce débat parce que je dis aujourd'hui, les Occidentaux, ils ont gagné. Ils ont gagné cette bataille, ils nous ont imposé leur langue et nous sommes obligés de parler leur langue. Maintenant, les aider encore. À étendre l'influence, je pense qu'on a du boulot.
D'accord. Alors, tout à l'heure, on a parlé du foot, tout à l'heure, mais on n'a pas créé le foot. Mais on était tous passionnés ici, on voulait même que nos gars fassent des miracles. Le foot, ce n'est pas un sport africain. Ce n'est pas les Ivalas, ce n'est pas la danse traditionnelle à Néo, ce n'est pas... Non! Mais ça, on s'est approprié ça. Si on veut dire notre culture, le foot, on ne va pas. Mais s'il y a l'argent dans le foot, ben, on en profite. C'est un événement... qui est devenu, on a envoyé à Débaillard aujourd'hui.
Un événement planétaire.
Il est plus riche que le plus gros entrepreneur de ce pays. Rien qu'en tapant dans le ballon, on pourrait dire, mais c'est quel jeu idiot, aller taper dans un ballon et puis devenir milliardaire. Mais donc, c'est pas africain, mais ça devient aujourd'hui des choses qui ont de la valeur et sur lesquelles l'Afrique aussi. Si, voyez les Sénégalais qui ont développé la lutte traditionnelle là-bas. Eh bien, nous, on n'arrive pas à le faire ici. Vous allez voir de grands lutteurs là-bas, qui sont de superstars là-bas, et qui vivent bien au Niger également. Donc, il y a des sports africains qu'on n'a pas su valoriser. Aujourd'hui, vous allez voir quand on passe la Champions League, mais tous les jeunes sont sous la télé, mais ils sont plus préoccupés par ça que par tout ce qui se passe dans le pays. Est-ce que le foot nous appartient? Est-ce qu'on peut dire que non? Je crois qu'il faut aller peut-être au-delà de cela. Ce qui est bon pour nous dans le monde, on l'utilise. Sauf que nous avons du mal à vendre notre culture. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus ce à quoi il faut aller. Il faut saluer dans ce sens des ambassadeurs, comme les Toufan et tout ça, qui font danser les gens partout. Vous sortez du pays, on vous parle de Toufan, on vous parle... c'est intéressant.
D'accord. Alors, on va quitter le sujet. On s'intéresse maintenant à la politique. La politique, on se souvient tout récemment avec cette agression, déjà agression alors du député sénégalais et aussi des hommes politiques, hein, bien sûr, puisqu'il y a Madame Adama Goodjohnson qui a été même aussi agressée. Là, il y a des journalistes aussi qui ont été agressés. Et tout récemment, il y a la DMP qui a fait une sortie après même cette agression pour demander une enquête internationale hein, sur ce qui s'est réellement passé afin de situer les responsabilités. Monsieur Alognon, déjà, on demande, ou la DMP demande une enquête internationale. Je pense quand même que, enfin, est-ce que la DMP est en droit même d'ailleurs de demander cette enquête internationale?
Oui, moi, je pense que la DMP est en droit de demander cette enquête internationale. C'est parce que si vous voyez d'abord les acteurs impliqués, et il y a le député Guy Marie Sagna qui n'est pas togolais, c'est un député sénégalais qui siège dans les bureaux de la CDAO.
Au
Parlement de la CDAO. Bref, on a toujours diligenté des enquêtes dans ce pays. Les enquêtes nationales ont donné quoi? Parce que ce qui s'était passé au siège de la CDPA, c'est horrible. Des gens qui se sont organisés pour venir s'attaquer à des responsables politiques sous le regard des forces de sécurité. Et ce qui m'a encore surpris, si la DMP aujourd'hui demande une enquête internationale, c'est tellement fondé. Vous avez lu le communiqué de la police où d'abord c'est un communiqué dans lequel le directeur Okpaoul se mélange complètement que la scène s'était passée à Hancock au siège de la CDPA. Mais déjà en commençant par même ne pas maîtriser le lieu où les choses sont passées, je ne vois pas comment une enquête diligentée ici qui va impliquer ces acteurs-là, je ne sais pas sur quoi ça va aboutir. Aujourd'hui, d'abord c'est un acte qui a terni l'image de ce pays et nos dirigeants, ils ne sont pas soucieux de l'image de ce pays. Si réellement nous sommes soucieux de l'image de ce pays, nous ne pouvons pas nous permettre de s'offrir ce spectacle parce que ceux qui ont opéré là-bas, ce sont les mêmes individus qui avaient opéré de par le passé lors des manifestations de l'opposition. Vous pensez que le UNIR sera quelque part en train d'organiser une manifestation ou de telles rencontres et que les gens vont s'infiltrer dans la foule pour faire ce qu'ils ont fait là? Ce n'est pas possible. Et jusqu'à présent, on ne nous a pas dit, on a pris X ou Y qui est responsable de cet acte odieux et qui a mis en branle toutes les couches de ce pays. D'accord. Donc c'est inadmissible. D'accord. Si nous voulons réellement construire ce pays, je crois qu'on doit commencer par se départir d'un certain nombre de comportements qui continuent par noircir l'image du pays.
D'accord. Alors, oui, mais M. Kofi, c'est vrai que c'est une agression qui a été condamnée par beaucoup d'acteurs hein, ici au Togo et aussi à l'extérieur. Alors, au-delà de la condamnation, il faut une enquête puisque c'est ce que les organisations demandent.
C'est très important que l'on ait une enquête, Pascal. Parce que ce qui s'est passé là, c'est totalement inacceptable. Non seulement pour nous en tant que citoyens, c'est un acte qui salit l'image de l'État togolais. Je l'ai dit à plusieurs reprises sur vos antennes que depuis quelques années, j'ai remarqué que le gouvernement nous montre une volonté de mieux faire. Nous avons vu récemment avec l'histoire de l'activiste béninois qui avait été kidnappé à Lomé et rendu aux autorités béninoises, comment la facilité ou la rapidité avec laquelle l'État était sorti pour déjà appréhender certaines personnes. Nous demandons à ce que la même chose soit faite dans ce dossier-là, pour que à l'extérieur, on puisse considérer que le Togo est un État sérieux. Parce que moi, je suis confiant que notre pays est un pays dans lequel on ne peut pas faire des choses et se cacher. Si le régime togolais te veut pour avoir commis des actes inacceptables, ils vont te chercher. C'est à leur portée. Ils ont les moyens de détecter ou bien de situer les responsabilités par rapport à ce qui s'était passé. Donc nous demandons à ce qu'il fasse preuve d'honnêteté pour sortir et nous dire exactement ce qui s'est passé et situer les responsabilités. C'est très important.
D'accord. Oui, mais Firmin, des individus qui sont venus attaquer des gens en réunion, alors il faudrait quand même que la responsabilité soit située.
Oui, qui leur a demandé de faire ça? Qui leur a demandé de faire ça? Moi, je pense qu'ils ont rendu le
délire. Quoi, vous pensez qu'il y a quelqu'un qui doit être derrière ça? Hein?
Non, je ne sais pas. C'est-à-dire, des gens ne peuvent pas s'organiser comme ça et puis aller attaquer des journalistes, des hommes politiques. Et puis un Sénégalais, qui leur donne de faire ça? C'est la question que moi je me pose, au fait. Parce que je me demande s'ils ont bien vraiment réfléchi à la portée de l'acte qu'ils étaient amenés à poser. C'est-à-dire, ils ont tout d'abord rendu célèbre le député. Ils ont fait du tort aux Togolais. Ils ont sali l'image du Togo à l'extérieur. Moi, c'est ça qui me fait de la peine, parce que vous savez, au niveau de notre sang, nous travaillons pour le rayonnement du Togo à l'étranger. Quand de tels actes se passent, c'est encore violent. Moi, je me dis que ceux-là, ils doivent. La police doit les poursuivre, en réalité. Parce que c'est à condamner. C'est une violence à condamner. Nous condamnons. Ça, c'est la première chose. Vous savez, le monde me fait peur. Il me fait peur. Quand on parle d'enquête nationale, ça me fait réfléchir à quelque chose. Je l'ai dit quelque part. Mais regardez. Le député, là, moi, je pense que c'est un idéaliste. Mais un idéaliste à qui de petites choses échappent. C'est un député. Un député de la CEDEAO qui se dit démocrate. Il devait arriver à respecter les règles. Un député de la CEDEAO, vous venez sur un territoire, membre de la CEDEAO, vous n'avez pas à vous impliquer dans les activités internes des partis politiques. Parce que le président de la République, lui, peut s'attaquer à la CEDEAO en disant que vous venez dans mon pays et venez m'accuser, vous venez me porter un sale coup dans mon propre pays, je peux vous accuser.
Non, mais est-ce que les Togolais, déjà, en tant que député alors de la CEDEAO, est-ce que les Togolais ne sont pas aussi ces mandants?
Non, mais vous n'avez pas. C'est la CEDEAO qui est là.
Oui, le Togo fait partie de la CEDEAO.
Avant de poser quelque chose que ce soit, c'est la CEDEAO qui donne le OK. OK, allez-y. C'est la CEDEAO qui dit. Quand la CEDEAO, s'il y a un problème dans un pays, quand la CEDEAO se déplace, la CEDEAO vient, elle va vers le président de la République, le gouvernement, les partis politiques, c'est-à-dire l'opposition et le parti au pouvoir. C'est comme ça que la CEDEAO se déplace. Vous ne pouvez pas, individuellement venir et aller discuter avec les partis politiques de l'intérieur. Ça ne se fait jamais.
Mais c'est la CEDEAO. Oui, mais c'est pour discuter avec les citoyens.
Mais vous devez avoir une autre, parce que vous ne vous appartenez plus. Vous êtes de la CEDEAO. Quand tout ce que vous ferez engagera la CEDEAO. Allez chercher les principes. Une seconde.
On a vu ça au Sénégal.
Une seconde. Mais là, l'autre chose qui se passe, c'est quoi? Maintenant, vous êtes député du Sénégal. Vous venez sur un territoire et vous attaquez au pouvoir en place. Le pouvoir de Lomé peut dire. Vous accusez l'autre pouvoir, le pouvoir sénégalais, mais vous venez chez moi, vous voulez me déstabiliser. C'est des choses politiquement c'est des choses qui sont définies politiquement. Les gens ne voient pas ça. En réalité, le député là, moi je le prenais tellement sérieux, et moi je me disais, vous ne pouvez pas faire ça. Vous imaginez, vous prenez un député de Unir, de la CEDEAO qui va au Sénégal et qui descend, qui s'accoquine avec les partis politiques du Sénégal. Mais qu'est-ce que le président du Wafé va dire? Il va dire, Fonyassine, tu m'envoies des députés me déstabiliser. C'est des choses qu'il faut voir. Il fallait vraiment réfléchir à ça. Mais pour souvent, c'est l'agression. Nous la condamnons. Mais l'autre chose, là où je dis le monde me fait peur, c'est quoi? On va porter plainte devant qui? Au niveau de la communauté internationale? Qui est sérieux aujourd'hui au niveau de la communauté internationale? Les gens sont là. Les Israéliens se lèvent. Ils tuent des gens au Liban. Ils tuent des gens. Ils tuent Hassan Nasrallah. Ils tuent les gens en Syrie. On ne dit rien. On va demander à qui de faire l'enquête nationale. D'accord. Mais là, regardez, dans ce monde, on a tué justement les gens en Libye, on a tué les gens justement en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que les enquêtes internationales ont donné comme résultat? Je dis qu'en réalité, le monde est devenu faux. C'est-à-dire, il n'y a que des intérêts qui gouvernent.
D'accord. Oui, alors, finalement, quand on demande aujourd'hui une enquête internationale sur le sujet, alors, est-ce qu'on n'a pas vraiment... ce n'est pas bien fondé?
Non, je pense qu'à partir du moment où le gouvernement a prévu faire des enquêtes, il faut donner un peu de temps au gouvernement d'abord, si ça n'avance pas.
Mais là, c'est parce que des gens se disent plutôt que au fin fond, le gouvernement ouvre alors des enquêtes, mais qui ne fait jamais.
De toute façon, il n'y aura pas d'enquête internationale si le gouvernement ne permet pas. On dit, il ne peut pas avoir un enquêteur qui va venir pour faire les enquêtes ici s'il n'y a pas la collaboration du gouvernement. Donc, ce qui exige ça, c'est insensé. Aucun enquêteur international ne viendra s'il n'a pas l'accord et la collaboration du gouvernement. Donc, il vaut mieux, selon moi, qu'on donne un peu de chance au gouvernement, du temps. Si ça n'aboutit pas, là, les enquêteurs nationaux ont dit, ceux qui ont des éléments n'ont qu'à les fournir. Moi, je crois que la députée Adiamabo prétendait même connaître l'identité des gens qui ont agressé. Mais elle n'a qu'à aller les verser à la commission d'enquête nationale ici. Voilà, déjà que ça commence. Mais maintenant, vous dites, enquête internationale, ça viendra d'où? Même l'ONU ne peut pas envoyer des enquêteurs. Ici, on en a connu à l'époque où on avait annoncé des cadavres sur les plages du Togo, du Bénin et du Ghana, des centaines de cadavres. On a fait venir des enquêteurs internationaux. Il n'y avait rien de tout cela. Mais il ne peut pas venir sans l'accord du gouvernement. Ce qui le demande, c'est que peut-être il ne sait même pas de quoi il parle. C'est comme si... Et aujourd'hui, ce que Firmin était en train de le dire, il y a des violations des droits de l'homme sur lesquelles ces enquêteurs-là n'interviennent même pas. Vous allez entendre des pays dire tel pays serait coupable de crimes contre l'humanité, sachant bien que c'est déjà des crimes contre l'humanité, disent serait. Et les gens, on a banalisé tellement la question des droits de l'homme avec beaucoup de choses qui se passent. Je crois qu'ici, on a vécu un événement qui a regretté, il faut le dire, sur plusieurs plans, même si par endroit le député, comme le disait Firmin, a peut-être provoqué cela pour se faire une petite publicité, espérer figurer, peut-être c'est ce qu'on dit du côté du Sénégal sur la liste électorale du 17 novembre prochain. Mais après, on ne peut pas dire une enquête internationale viendra d'où. Je pense que la CDP, ceux qui réclament, feraient mieux de mettre la pression sur le gouvernement. Faites aboutir cette enquête-là. Vous avez promis une enquête, faites-la aboutir. Si vous avez des éléments, vous les apportez. Mais une enquête internationale ne pourra se faire qu'avec l'accord et la collaboration des autorités.
D'accord, ok. Merci beaucoup, cher confrère. Nous avons notre temps est déjà avancé. Nous allons maintenant donner la parole à nos auditeurs, mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs.
93.5. Canal FM.